Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h.
Mediapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour Catherine.
Bonjour Olivier, bonjour Sonia, bonjour Justine.
Bonjour à vous.
Et bonne année à tous, c'est Mediapolis, l'émission sur les rapports entre médias et politique, avec Catherine Ney donc, réalisée par Jean-Luc Arblade et préparée par Capucine Patouillet. Et comme je le disais tout à l'heure à Patrick Cohen, eh bien oui, nous sommes samedi. Enfin, nous sommes samedi en direct. Évidemment, si vous nous écoutez en podcast dimanche ou lundi, on n'est plus samedi. Mais là, à l'instant que je vous parle, nous sommes samedi. Et pourtant, notre invitée est Sonia Mabrouk, que vous entendez, qui anime la matinale tous les matins à 8h, puis son invité politique, qui va donc à la fois commenter avec nous quelques grands sujets de l'actualité et peut-être nous parler un petit peu de ce drôle de métier qui est le sien. Pour commencer, comme d'habitude, un canteloup.
C'est toujours la pagaille dans Paris à cause de la grève. On va retrouver Nelson Montfort en duplex de la Gare du Nord. Bonjour Nelson.
Oui, bonjour ma chère Julie, chers camarades auditeurs. Bonjour mon cher Mathieu. Écoutez, ici, Gare du Nord, c'est la deuxième journée pour ce championnat de France de bordel. On se demande évidemment si les athlètes vont pouvoir tenir. J'aperçois. Philippe Martinez, que vous surnommiez de façon très drôle, Gérard Jugnot. Philippe Martinez qui est donc à l'échauffement. Il est en train, à l'heure actuelle, de préparer une banderole et de réunir son équipe pour bloquer tout le trafic ferroviaire. Je suis toujours avec notre consultant en bordel qui est à mes côtés, Alain Juppé. Merci d'être là, d'être fidèle. Alain Juppé, cher Alain, le mental a-t-il son importance dans la création d'un beau bordel, d'un bordel de champion? Est-ce que vraiment c'est important, le mental?
Écoutez... Oui, je me souviens qu'à l'époque, je me regonflais régulièrement le moral. Je regonflais également le moral des fouteurs de bordel. J'essayais pour cela d'être cassant, d'être hautain. Je ne voulais pas lâcher. Voyez. Et c'est vrai que ça les motivait pour continuer à foutre le bordel partout. Là, je trouve que le gouvernement est plutôt bien parti. Et, voyez, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est une connaissance aiguë de la psychologie des athlètes. Alors, est-ce que demain, le gouvernement va trouver les mots pour motiver les troupes? Je ne sais pas. Après, est-ce qu'Edouard Philippe peut devenir le Ronaldinho du foutoir, le Neymar du merdier, le Kylian Mbappé du bordel? Je ne sais pas. Vous savez, c'est la glorieuse incertitude du sport.
Merci, mon cher Alain, vous avez raison. Laissons-nous surprendre par la magie du bordel. À vous, Paris!
Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il s'agit d'un canteloup du mardi 10 décembre dernier et qu'on aurait pu vous...
Ça n'a pas pris une ride.
Voilà. Une des questions sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, c'est pendant combien de semaines est-ce qu'on va pouvoir vous passer ce canteloup et le faire croire qu'il a été enregistré dans la semaine. On est obligé, donc, une fois de plus, de consacrer une partie de cette émission au mouvement des retraites et d'abord à Emmanuel Macron, dont l'allocution télévisée était traditionnelle, des vœux étaient très attendus, a été très écoutée, malgré quelques appels au boycott, plus de 10 millions de personnes, c'était dans les chiffres hauts d'écoute de vœux présidentiels, mais qui n'a pas du tout convaincu. Écoutons le passage principal de cette allocution.
J'ai conscience que les changements bousculent souvent. Mais les inquiétudes ne sauraient pousser à l'inaction car il y a trop à faire. C'est pour cela que la réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme. C'est pourquoi, pour vous, avec les organisations syndicales et patronales qui le veulent, j'attends du gouvernement d'Edouard Philippe qu'il trouve la voie d'un compromis rapide dans le respect des principes que je viens de rappeler.
Alors, il y a quelques mots-clés là-dedans qui sont même « j'attends »,« compromis », »,« rapide ». Et pourtant, ça n'a pas pris dans l'opinion, Catherine Ney.
Mais je pense que c'est son ton qui a surpris, parce que vous l'écoutez, on a l'impression, il était debout à l'Élysée, mais on a l'impression qu'il était en chair dans une église, c'était le prédicateur comme ça, qui franchement apaisait les gens, c'était pas du tout Jupiter, cassant, hautain, qu'il avait pu être quelquefois. Donc, les mots ont moins marqué. Mais en tous les cas, on a entendu qu'il ne cédait pas de terrain, que la réforme serait faite, que, et très vite, l'espérait-il, et qu'il y aurait des compromis. Et pour qu'il le dise, moi je me suis dit que peut-être il y a des compromis qui sont en vue, et j'ai vu que la non-réaction de Laurent Berger, qui va parler dimanche, était déjà une piste de compromis possible. voyez ?
Se taire est un début de compromis.
Se taire, c'est qui ne dit mot qu'on sent. Vous voyez ? Bon, et je me suis dit, peut-être, c'est ça, parce que s'il veut gagner sa réforme, sur qui peut-il compter ? Absolument pas sur la CGT, qui est contre absolument, qui dit non à tous, et M. Niette, enfin, c'est pas lui qui va gagner, c'est pas avec la CGT, donc ça ne peut être qu'avec l'UNSA, la CFTC et Laurent Berger, qui en plus est l'artisan, enfin, est le grand, celui qui depuis toujours rêve de cette retraite à points si juste et si universelle, et qui n'est ni juste ni universelle, mais alors, bon, ça c'est une autre chose.
Sonia Mabrouk, je vous donne tout de suite une clé au cas où vous ne l'auriez plus en tête, c'est que Catherine Ney n'a pas une passion pour Laurent Berger, c'est un euphémisme, et donc quand il se tait, elle l'aime beaucoup plus que quand il parle.
Mais non, c'est une appréciation.
Non, mais Catherine a raison, c'est-à-dire que dans les médias et dans les milieux politiques, Laurent Berger est présenté comme l'homme clé, comme véritablement celui qui peut permettre d'arriver à ce compromis. Moi, je n'en suis pas sûre. Hein. Je pense qu'il y a une symphonie syndicale qui doit se mettre en place et que le mot clé, c'est véritablement celui qui a été prononcé par Emmanuel Macron, c'est le mot compromis. Mais la vraie question, c'est à quel prix ce compromis ? Parce que c'est le risque de mécontenter tout le monde. Il faut savoir quand même, parce qu'on parle beaucoup des mécontents, des grévistes, que cette réforme, elle est voulue par une partie des Français. On ne le dit pas. Quelle partie ? C'est la droite, c'est le centre droit, mais qui se demande aujourd'hui, qui est troublé, à quel prix ? C'est-à-dire qu'on nous a promis, on a promis une réforme universelle, on en est très loin. Le principe d'universalité devient une sorte de catégorisation de la population française. Je ne dis pas qu'il ne faut pas répondre aux angoisses et puis aux cas particuliers de chacun, mais enfin, le principe d'universalité, il s'éloigne. Et puis deuxième chose, une question que l'on pose pas assez, combien ça va nous coûter ? On nous a parlé d'économie, aujourd'hui c'est une réforme qui devient coûteuse et c'est qui va payer ? C'est nous tous.
En fait, vous êtes très contente d'être à Mediapolis parce que tout d'un coup, vous pouvez nous livrer, vous pouvez vous lâcher
et
nous livrer tout
semaine.
Ce que vous ne pouvez pas dire en semaine où vous êtes dans une autre fonction plus neutre. D'ailleurs le traitement par les médias du mouvement social, j'ai l'impression, mais vous allez me dire, parce que vous êtes au cœur des machines, moi je n'y suis pas, j'ai l'impression que... Non, je veux dire, je ne suis pas dans la fabrication des journaux du matin.
Vous y êtes
si
beaucoup plus que nous.
Non.
Ah, ben l'analyse, c'est le plus important,
mais
et le recul dans ce genre de
réforme. Par rapport à la question que je vous pose, je n'ai pas les éléments. Est-ce que vous êtes, comme j'en ai l'impression en écoutant l'antenne et d'autres, et les chaînes d'information, etc., qu'il y a un vrai souci d'équilibre entre les invités hostiles au mouvement et les invités syndicalistes ou grévistes, et que c'est presque comme en campagne électorale, on fait attention à ce que tous les points de vue s'expriment de façon à peu près équilibrée sur l'antenne, ou est-ce que c'est hasard et qu'on ne se pose pas tellement la question ?
Non, il y a un véritable souci, comme il y aurait ce souci sur d'autres questions, mais enfin, je pense que les gens le savent, les auditeurs le savent, nous avons des convictions. Moi, sur certains sujets, pas les sujets politiques ni sociaux, sur d'autres sujets, je ne les ai pas cachés, je les ai même écrits et puis défendus dans certains livres et puis sur les médias, mais sur ces sujets-là, véritablement, qui sont éminemment politiques, qui nous touchent au quotidien, c'est vrai, il y a un souci d'équilibre. Maintenant, je pense
mais
que parfois,
transparaît... Mais je vais être précis, vous le notez, vous décomptez, enfin, peut-être vous ne faites pas de décompte chronométrique,
non, il n'y a pas de décompte...
mais vous faites un relevé des invités,
non,
pour bien
vérifier
que...
Non, il n'y a pas de calcul, ce n'est pas arithmétique, c'est beaucoup plus subjectif, intuitif, finalement, et je crois qu'on aboutit peut-être plus, finalement, en étant intuitif, à une forme d'équilibre et d'harmonie qui serait beaucoup plus contrainte si c'était calcul et arithmétique.
Je vais vous dire, Catherine, pourquoi je trouve ça intéressant. Je suis, alors, moi j'essaie de rester dans des analyses, mais il m'arrive aussi, sur certains sujets, moins que des auditeurs hostiles le croient, mais plus que je le voudrais, d'exprimer une opinion. Mais ce n'est pas une opinion politique, c'est une opinion politologique, ce qui n'est pas la même chose. Je suis un adversaire farouche des pratiques de décompte de temps de parole dans les campagnes électorales, ou etc., etc. Je trouve ça intégralement stupide. La France est un des rares pays au monde à faire ça. Et ce que je trouve très intéressant dans les mouvements de grève actuels, c'est qu'il s'est forgé assez intuitivement, comme vient de nous le dire Sonia Mabrouk, un respect de l'exposition des différents points de vue, une variété des invités, sans la moindre surveillance particulière du CSA, a fortiori sans décompte chronométrique, et ça fonctionne très bien. Et la preuve que ça fonctionne très bien, c'est que on entend tout et son contraire, mais il n'y a pas de mise en cause des médias sur ce point-là. C'est-à-dire, on ne dit pas « Ah, oh, on n'a jamais la parole », etc. Ce qui est quand même la preuve que ça fonctionne bien.
Ça fonctionne bien parce que ça, c'est le rôle des chaînes en continu. D'abord, elles ont l'espace pour faire parler tout le monde. Et même, elles en ont besoin de faire parler tout le monde pour remplir l'espace, voyez. Et donc, chacun... D'ailleurs, quand les premières chaînes, quand TF1 avait créé LCI, c'était d'abord pour pouvoir inviter sur LCI les gens, les syndicalistes, les politiques qui n'avaient pas le temps de s'exprimer sur TF1. Et quand vous avez une chaîne en continu qui toute la journée doit mouliner, mais vous allez chercher, vous invitez même des gens quelquefois pas intéressants, vous allez chercher parce qu'ils sont là, parce qu'ils sont pas partis en vacances, parce que voilà. Donc tout le monde a sa chance dans ces chaînes en continu. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de grand, de cette foire, tout le monde peut parler. D'ailleurs, il y a une telle cacophonie que l'on ne retient pas toujours ce qu'ils disent. En tous les cas, comme ce qui était intéressant après le discours de Macron, avant même qu'il ait fini de parler, on savait tout de suite comment aller réagir. Vous pouvez tous les prendre, Mélenchon, Ségolène Royal, enfin, ça, je vais dire, ça, les syndicats, on savait à l'avance tout ce qu'ils diraient.
Oui.
Bon, mais donc, ils s'expriment sur les chaînes, parce que les chaînes doivent remplir leur espace et que c'est tout bénéfice pour elles.
Mais ça, c'est pas nouveau.
Cela
dit, les Français étant les Français, on trouve toujours qu'on donne trop la parole à nos adversaires. Mais ça, c'est un point dont on se défera pas. Sonia Mabrouk a quelque chose à vous dire.
Non, une attention particulière,
oui,
quand même.
Dans deux minutes.
C'est un bon tease.
Europe 1. Médiapolis.
Jusqu'à 11h, on vous retrouve, Olivier Duhamel et Catherine Ney pour Médiapolis. Et ce samedi, vous recevez la journaliste Sonia Mabrouk qui a sorti en septembre dernier « Douce France, où est passé ton bon sens ?» aux éditions Plomb.
Sonia Mabrouk qui a quelque chose à nous dire.
Non, vous nous parliez, Olivier et Catherine, justement de ce souci de l'équilibre, de l'attention donnée pour qu'il y ait une harmonie entre ceux qui sont d'accord ou pas d'accord avec la réforme. Moi, ce qui me frappe au-delà des invités politiques et des intervenants, c'est surtout les Français dans nos reportages. Il y a eu, il est vrai, au début de ce mouvement, beaucoup de reportages où on entendait... particulièrement les gens qui disaient « Écoutez, c'est pas grave, nous ne sommes pas tellement dérangés, nous sommes contre la réforme des retraites. » Et moi, j'ai eu beaucoup de réactions de gens qui me disaient « Mais c'est pas possible, vous nous donnez la parole. » Je parle de tous médias confondus, hein, radio et télévision, qu'à une partie des Français. C'est vrai qu'il y a, et c'est pas un mythe, hein, cette France silencieuse, celle qui ne parle pas, celle qui n'est pas forcément représentée par des syndicats extrêmement présents et même parfois agressifs, à laquelle on ne donne pas suffisamment la parole. Donc l'attention est donnée sur cela. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, ceux qui se lèvent tôt, les commerçants, les indépendants, les artisans, etc., qui n'ont pas leur parole portée dans les médias et qui n'en peuvent plus et qui ne savent pas comment le dire. Et je pense qu'on ne relaie pas suffisamment cette parole-là. Qu'ils soient contre ou pour la réforme, c'est pas ça qui est important. Ils sont véritablement touchés dans leur vie. C'est un manque à gagner. Moi, j'ai posé une question comme cela. Je crois que c'était à Adrien Quatennens qui était dans ce studio. Je lui ai dit, mais vous, en tant que député, vous allez avoir votre salaire à la fin du mois. En tant que journaliste, j'aurai mon salaire. Mais l'artisan, le commerçant, hein, celui qui est en train de souffrir de tout cela depuis 30 jours, il ne l'aura pas. Il aura un manque à gagner important. Qu'est-ce que vous dites à cette France-là? Elle existe?
Mais vous avez raison, et surtout qu'en plus, qui faisait ses courses ces temps-ci à Paris, on voyait tous les vendeurs dans les magasins qui s'étaient levés à 4h du matin, qui avaient fait 2h de marche, qui avaient payé de leur argent les taxis pour arriver au boulot, pour que leur salaire ne soit pas amputé, qui sont extrêmement fatigués, qui en ont marre, et qui en veulent autant à la CGT d'ailleurs qu'au gouvernement en ce moment. C'est vrai qu'on ne leur donne pas la parole. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est quand il y a un micro-trottoir dans une gare et tout ça, dans les aéroports, où les gens attendent comme ça, ah mais on les comprend et tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont peur de dire ils nous font suer, on en a marre. Mais je sais vrai, ça m'a toujours frappé que les gens, la majorité silencieuse, restent silencieuses. Et justement, ben, elles devraient parler. En tous les cas, je peux vous dire que vous avez raison. Quand on va dans les boutiques, les gens, ils en ont ras le bol.
Non, mais deux choses. D'abord, tout le monde n'est pas obligé de penser la même chose que vous sur le sujet.
Donc, mais moi, je ne dis pas ce que je pense, je dis ce que les gens me disent.
Bon.
Voilà.
D'accord. Alors, oui, mais vous dites, je ne comprends pas qu'ils disent ils ont raison. Ben, y en a qui peuvent penser ça, c'est leur droit.
Mais oui, mais c'est toujours
surtout,
ce qu'on entend,
mais
c'est
surtout,
ce que disait Sonia.
Il y a un point auquel il faut qu'on prenne garde quand même, c'est que le ras-le-bol, les dégâts entre guillemets collatéraux très très lourds pour beaucoup de personnes, les gens qui doivent se lever à 3 ou 4 heures ou 5 heures du matin pour aller au boulot parce qu'ils habitent très très loin et qui sont sérieux et ils n'ont pas leurs moyens de transport habituels, les gens qui perdent leur chiffre d'affaires, etc., c'est un phénomène francilien, c'est pas un phénomène national. C'est-à-dire, dès que vous êtes... Moi, je l'ai constaté là où, justement, quand j'ai quitté Paris, si vous voulez, quand vous êtes très très loin de la capitale, les gens sont assez peu impactés. Ils l'ont été un peu là, pendant les fêtes, parce que justement, c'est un moment où ils ont besoin de se déplacer.
À une nuance près, Olivier, oui. Il y a aussi les touristes qui voient l'image de la France, qui ne vont pas forcément tous à Paris, qui ne vont pas en région. Moi, je pense qu'il va y avoir une onde de choc, si vous voulez, à long terme. Il y a un effet à court terme, vous avez raison, qui est francilien, même très parisien, mais l'onde de choc sera plus importante. Je ne suis pas en train de dire, je ne donne pas un avis hein, sur les syndicats, je dis qu'il y a une forme de co-responsabilité syndicale et gouvernementale, et que nous portons tous.
Et pendant ce temps-là, il y a une sorte de volonté d'une partie des syndicats de radicaliser fortement le mouvement. On y vient dans quelques instants.
Europe 1. Mediapolis.
Comme tous les samedis jusqu'à 11h, c'est Mediapolis sur Europe 1. Ce matin, Olivier Duhamel et Catherine Ney reçoivent la journaliste et écrivaine Sonia Mabrouk.
Oui, merci Justine. L'émission préparée par Capucine Patouillet. Avec Sonia Mabrouk, notre invitée, Catherine Ney, que des femmes. Non, il y a deux hommes, il y a Jean-Luc Arblade à la réalisation, et moi-même.
Mais c'est ce qu'on appelle la parité.
Ah, vous appelez ça la parité, 4-2, vous n'avez pas dû être très douée en mathématiques, Catherine. Hein. Bon, alors pendant ce temps-là, c'est le début de l'année, on est joyeux aussi. Mais il y a quelqu'un qui nous annonce pas forcément très joyeux, en tout cas, sauf pour lui. Écoutez ce qu'il demande, Philippe Martinez.
Le premier rendez-vous, c'est lundi prochain. Tout le monde rentre de vacances, il va y avoir des assemblées générales, il faut discuter. Hein. On appelle tous les Français, à se mobiliser, à aller en manifestation et à se mettre en grève. Voilà, c'est clair mon message. Parce que face à un président de la République qui fait de l'autosatisfaction et qui considère que tout va bien dans ce pays, eh ben il faut que le signal d'alarme il soit plus fort, parce qu'apparemment, il n'a pas encore bien compris qu'il y avait un petit problème dans ce pays.
C'était donc Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, ce mercredi sur RMC. Appelle donc à tous les Français à se mettre en grève. Alors, première question, est-ce que ça vous a surpris, Sonia Mabrouk, cette demande de radicalité supplémentaire ?
Non, parce que ce qu'il y a, si je puis dire, de bien avec Philippe Martinez, c'est qu'on sait à l'avance ce qu'il va dire. Donc, c'est même très pratique pour le gouvernement. C'est-à-dire que vous avez en face, ce n'est pas un interlocuteur, mais on va dire un syndicat qui dit non. C'est pas la poupée qui dit non tout le temps, c'est le syndicat qui dit non. Donc Emmanuel Macron, le gouvernement, l'exécutif, sait parfaitement ce qui va en être de la suite de ce mouvement. Je pense qu'il a déjà prévu ce que certains appellent une radicalisation, mais moi il me semble que s'il y a radicalisation ou en tous les cas certains mouvements ou certains actes qui peuvent être illégaux, il y a une co-responsabilité qui est partagée aujourd'hui.
Je suis la CGT.
Ce qui est assez
qui
agaçant,
non,
c'est quand on voit des ministres qui rencontrent souvent Martinez, ils disent que dans ce qu'il dit à Matignon, dans une réunion où ils ne sont pas nombreux, mais c'est un type qui a de l'humour, contrairement à ce qu'il a l'air d'être, qui peut rire et comme ça, qui est presque sympathique, qui dit, qui dit non, mais de manière, vous voyez, presque polie, puis il sort sur les trottoirs, ou en tous les cas le perron de Matignon, et là, il tient un langage comme ça, vindicatif, acrimonieux, parce que c'est sa base. Je veux dire, il travaille pour lui,
oui,
il faut qu'il soit réélu.
Oui, c'est intéressant quand vous dites c'est sa base, parce que finalement, on assiste à deux phénomènes, pour part contradictoires, mais qui sont en train de se conjuguer. Toute chose égale par ailleurs, ça fait écho à l'ère populiste du temps.
Il est dans un jeu de rôle.
D'une part, vous avez un basisme très fort, vous avez un rôle très important de la base qui est dans le déclenchement de la grève.
Absolument.
Très important de la base, parfois dans la continuation de la grève contre les consignes nationales, on l'a vu avec l'UNSA, d'accord ?
Oui.
Et d'un autre côté, quand même une extraordinaire starisation des personnages. Philippe Martinez, Laurent Berger, Édouard Philippe, Emmanuel Macron. Hein ? Donc il y a les chefs starisés et la base qui pousse, ce qui n'aide pas au compromis, je pense. Je pense que quand vous starisez les personnes, vous les enfermez dans leur rôle.
Oui.
Donc vous rendez plus difficile la
théâtralisation, je pense, oui. Et vous le savez mieux que moi, depuis des années, c'est ainsi que ça se passe. Hein. Et d'ailleurs, on peut souligner quand même le retour des syndicats. Vous dites starisation, il y a encore quelques mois, il n'était plus rien. Mais plus rien du tout, et les vrais stars, entre guillemets, stars, c'est aussi parfois clivant comme mot, c'était les gilets jaunes. Mais juste un mot quand même, ne pas s'habituer à une forme d'illégalité. Parce qu'on est en train de parler de radicalisation pour certains actes, bloquer des raffineries, s'introduire, si ça a été le cas, dans un siège de parti, et d'autres choses. Enfin, ce n'est pas un combat social, ce n'est pas un combat démocratique. Hein. Il ne faudrait pas qu'on s'y habitue aussi.
Ce qui est terrible, c'est que voyez, la CGT, qui est minoritaire, qui est un syndicat qui n'est pas très important, il a un pouvoir absolu de bloquer, grâce à elle, les trains, l'électricité quand même, ils ont coupé l'électricité, les raffineries. Et c'est vrai que dans les raffineries Total, je veux dire, la CGT peut, avec 60 types, bloquer la distribution, la fabrication et tout ça. Alors que les gens de Total, c'était comme en 2010, ils ont un système de retraite, vraiment, mais c'est en or, ils partent à 58 ou 60 ans, et ça, le gouvernement n'y touchera pas. Ils ne sont absolument pas impactés.
57 par... qui passerait à 59 dans
oui,
le...
Oui, enfin, ouais, ouais. Bon, bon, en fin de cas, ils ne sont non, pas impactés là. La bon. Réforme, et ils peuvent emmerder les gens, et que pas, avec non seulement pas travailler, pas d'essence, non mais c'est un pouvoir absolu, c'est épouvantable quoi.
Mais j'ai quand même la dernière question à poser, que je profite de mon statut pour vous la poser et pas la poser à moi-même. Est-ce que vous pensez qu'on va vers une extension du mouvement ou vers une extinction du mouvement ?
Alors, ce n'est pas de la langue de bois, Olivier, mais je vais vous répondre évidemment mon sentiment. C'est très difficile de prévoir. Vous savez, pour les Gilets jaunes, personne ne l'a vu venir ou rarement, donc je ne me permettrai pas. Et puis, je ne voudrais pas donner ce qui peut se passer. Je ne peux pas lire dans une boule de cristal sociale ni politique, mais enfin, il y a quand même quelque chose, ce que je vous disais tout à l'heure sur le phénomène à long terme. Je pense que ça laissera des traces. Et quand je dis responsabilité, je suis quand même frappée. Nous avons ici tous les matins dans ce studio les intervenants politiques, que ce soit l'opposition mais aussi le gouvernement, par une forme de flou qui est entretenu, alors sciemment ou pas, mais c'est frappant. On parle d'une réforme, c'est la quintessence même de la réforme, les retraites. Vous n'avez pas le droit d'entretenir la moindre ambiguïté sur ce sujet.
Et vous, Catherine, extension ou extinction en quelques secondes ?
Ben, je n'en sais rien. En tout cas, il y a une date.
Il
avec les gilets.
Il y a 7-9-11, il y a trois dates. 7-9-11.
7-9-11, reprise
oui. Les négo, 9 journées de mobilisation, 11 remobilisations.
Et 22 présentations du projet en Conseil des ministres.
Oui,
donc ça, c'est la date.
Maintenant.
24 si vous voulez, mais enfin, donc
non,
c'est
si
la
veux,
fin janvier.
Décide, oui.
C'est la fin janvier, donc il y a des dates, parce que les Gilets jaunes, il n'y avait pas de date. C'était un mouvement
d'accord.
qui 7, se nourrissait.
7, 9, 11 et 22 ou 24.
22 ou 24. Alors peut-être il y aura un compromis, mais moi je pense que quand le président a dit qu'il demandait au Premier ministre d'aller vite, le plus vite possible, moi je pense qu'il y a des pistes de compromis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des grèves, que la CGT qui va obtenir pas assez, qui restera enfin sûrement un peu déçue, ne va pas continuer.
À quel prix, prix
le président, il n'a pas dit que ça, il a aussi parlé d'autre chose, il a aussi d'autres problèmes, d'autres perspectives, ça prend ou ça ne prend pas ? Réponse dans quelques minutes.
Mediapolis continue jusqu'à 11h avec vous, Olivier Duhamel, et vous, Catherine Ney, mais avec aussi Sonia Mabrouk, journaliste et écrivaine, qui a d'ailleurs publié en septembre dernier « Douce France, où est passé ton bon sens ?» aux éditions Plon.
Et aussi avec Emmanuel Macron, un autre aspect de ses vœux qui n'a peut-être pas été suffisamment souligné. Rassurez-vous, ce sera critiqué juste derrière, là, les mauvais esprits. Écoutons Emmanuel Macron.
Ensemble, faisons de la décennie qui s'ouvre une décennie française et européenne. Nous sommes un peuple de bâtisseurs, conscient de sa vocation universelle, un peuple de temps long qui, parce qu'il sait d'où il vient, sait se projeter. Un peuple qui, toujours, sait se hisser à la hauteur des circonstances.
Catherine nous disait tout à l'heure qu'il avait parlé comme un curé dans une église. Là, c'était très approprié. Et ce qui est frappant, c'est que ça n'a pas pris du tout. C'est-à-dire qu'il avait pour but de faire le passage qu'on a longuement commenté sur les retraites, et puis d'ouvrir une perspective, une vision, comme on lui demande à chaque fois, sur la décennie française, ce peuple de bâtisseurs. Or, il y a une intéressante enquête d'opinion au Doxa qui a été publiée hier, qui a été faite les 2 et 3 janvier. Et à la question, bon, alors il n'a pas convaincu, ça, comme d'habitude, on aurait pu le prévoir.
On aurait pu l'écrire avant.
On aurait pu l'écrire avant. Mais après, quand on le regarde par thème, est-ce qu'il a cherché à apaiser ? Alors il n'a pas cherché à apaiser, là c'est seulement 57%, il a cherché à apaiser
mais oui.
41%. Mais, est-ce qu'il a donné des perspectives encourageantes pour le pays ? Et là on remonte à 72% de non, 26% de oui. Autrement dit, il n'arrive pas à sortir de la glu de l'impopularité, quand même. Quoi qu'il dise, d'une certaine manière, avec la petite exception d'apaisement que j'ai notée. Comment,
oui, donc... mais pourquoi voudriez-vous qu'étant populaire au mois de décembre, ils deviennent tout d'un coup populaires le 1er janvier?
Bon. Oui, un populaire alors, en décembre. Bon. Populaire en janvier, non, mais je.
Non, mais ça, c'est. Mais... Bon, voilà.
Alors, je veux si dire... vous préférez que je le dise autrement, bon, il est alors... tellement impopulaire que même sur des sous-questions. Pas toutes, mais presque.
Bah, vous savez, il y a l'impopularité et il y a peut-être plus important, c'est est-ce que vous êtes rassurant ou vous n'êtes pas rassurant. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron parle, et là c'est un paradoxe un peu français, c'est-à-dire qu'on demande souvent à nos présidents de donner le cap, ce qu'on appelle la vision, et de se projeter dans l'avenir. Quand Emmanuel Macron parle de l'esprit français, qu'il vante l'esprit français, eh bien il ne l'explique pas. Et je trouve que c'est un paradoxe, comme si cela allait de soi, alors que moi je crois... à l'inverse, qu'aujourd'hui, ça ne va plus de soi. Il parle d'un peuple de bâtisseurs, alors que nous sommes aujourd'hui dans une période, et même une décennie, au contraire, de déconstruction. Les Français voient un petit peu plusieurs plans de notre société s'effilocher, un petit peu partir comme ça. Et lui, il en appelle à l'esprit français, le président, sans l'expliquer. Moi, je pense qu'il ne l'a pas rassuré sur ce point. Il parle d'un ciment et d'un socle que nous n'arrivons plus aujourd'hui, justement, à trouver ce trait d'union. Et c'est en cela, je pense, qu'une partie des Français qui veulent entendre qu'on leur parle de la décennie française, de l'esprit français, de ce qui nous unit tous, ils n'arrivent pas à l'incarner, à l'expliquer. C'est en cela qu'il n'est pas rassurant. Et je trouve ça plus inquiétant que l'impopularité.
Et puis alors, y a aussi le terrain de la politique étrangère. Les Français s'y passionnent moins. Mais d'une certaine manière, il n'a pas non plus des résultats qui permettraient d'impressionner. On sait qu'il s'est donné beaucoup, beaucoup de mal pour essayer de retisser un minimum de liens entre l'Iran et les États-Unis et que non seulement ça n'a pas donné de résultats, mais un cran vient d'être franchi cette semaine, qui peut-être est gravissime d'ailleurs, dans la confrontation entre les États-Unis et l'Iran. Alice Baudry, qui est la directrice de la stratégie du développement à l'Institut Montaigne, qui surveille les médias internationaux pour nous, a repéré sur le sujet... dans l'actualité internationale géopolitique, donc le meurtre du militaire iranien, évidemment, Qassem Soleimani, considéré comme beaucoup, par beaucoup, comme extrêmement puissant, plus puissant que le ministre iranien des Affaires étrangères, eh bien, un article qu'elle a repéré du New York Magazine pour Ether Herbert, publié hier vendredi, rappelle les mots prononcés par la secrétaire d'État, le secrétaire d'État à la Défense, exactement, des États-Unis, Mark Esper, « The game has changed », le jeu a changé. Sur le moment, cela semble être un avertissement de la part des Américains aux milices iraniennes. Et en 12 heures, le message s'est avéré prédictif, avec un défaut crucial selon la journaliste, il ne s'agit pas là d'un jeu. En moins d'une semaine, les relations entre les États-Unis et l'Iran se sont tellement détériorées, en passant de ce qui semblait être un échange encore prudent de frappes, de cyberattaques et surtout de rhétorique, au meurtre d'un homme, à l'assassinat, et pas n'importe lequel, d'un homme, puisqu'il était considéré comme le deuxième responsable militaire iranien. Les experts militaires et ceux de la lutte contre le terrorisme s'inquiètent des scénarios de représailles allant d'une guerre régionale totale aux représailles terroristes contre les Américains à l'étranger ou chez eux. Et la journaliste ne résiste pas à rappeler qu'en 2015, le candidat de l'époque qui était Trump ne savait pas qui était Soleimani, pourtant une personnalité clé pour Washington. Il avait même confondu, semble-t-il, le nom de ses forces de sécurité Quds avec les Kurdes. Mais les administrations américaines précédentes auraient envisagé, dit l'article enfin, de l'assassiner et choisi de ne pas le faire en raison de la profonde réaction qu'une telle action pourrait déclencher de Téhéran, d'une part, mais aussi d'autre part, parce qu'il était considéré comme un personnage stratégique avec lequel Washington se devait de communiquer. C'est un article du New York Times, j'en ai lu quelques autres, USA Today, etc., qui sont tous extrêmement critiques sur la décision de Donald Trump, plus ceci qu'elle a un aspect presque incompréhensible, en tout cas difficile à comprendre, par rapport à tout l'engagement qu'il avait pris dans sa campagne de dégager les États-Unis du bourbier afghan, du bourbier syrien et du bourbier irakien. On ne sait plus très bien où il donne de la
tête.
Oui,
mais enfin, il s'est quand même passé quelque chose. Et Donald Trump, moi, je pense critiquer, mais il a une logique, Donald Trump, qu'on le soit d'accord ou pas. Et il a envoyé deux messages très clairs. Un premier message au monde, quand on attaque une ambassade américaine, qui plus est, en Irak, c'est quand même un terrain de jeu connu des États-Unis, eh bien, il y a une réaction. Après, on peut discuter de la proportionnalité de la réaction.
D'autant que votre terme attaque était légèrement fort.
En tous les cas, il y a eu quand même. Oui, mais enfin, il y a eu quand même envahir. En tous les cas, aux abords de l'ambassade américaine à Bagdad, il y a eu une action et puis après un message de menace des Iraniens qui était assez direct. Et je pense que Donald Trump ne pouvait pas laisser impuni. Maintenant, la question se pose sur la proportionnalité. Puis deuxième message est très clair aux Américains eux-mêmes. Tout le monde le sait, nous sommes en campagne électorale. Il y a aussi la procédure d'impeachment à l'encontre du président américain. Deux messages clairs envoyés, sauf que ils ont été envoyés dans un Orient compliqué. Et l'Iran, c'est un pays avec énormément de nuances. On présente le général Soleimani à raison comme quelqu'un de très très important, à la fois charismatique, mais c'est aussi quelqu'un qui terrorisait beaucoup. Les conséquences, moi je pense qu'il y a quand même deux logiques. Et quand on parle de déclaration de guerre, je trouve qu'on va un peu trop vite. Il va y avoir des représailles. L'Iran peut intervenir à travers aussi ses alliés, le Hezbollah libanais. Il y a beaucoup de moyens de leviers d'action. Mais ce sont deux logiques qui finalement peuvent se comprendre aussi.
À suivre. Et pendant ce temps-là, il y a encore eu un autre événement hier qui, d'une certaine manière, dans nos têtes, nous relie à tout cela et qui est assez grave. On y vient dans deux minutes.
Europe 1.
Mediapolis. Jusqu'à 11h, vous écoutez Mediapolis avec Olivier Duhamel et Catherine Ney, qui sont accompagnées ce samedi par la journaliste et écrivaine Sonia Mabrouk, qu'on retrouve dans la matinale semaine à 8h pour le journal et à 8h15 pour son interview politique.
Oui, mais là, elle est avec nous.
Avec
et par contre, c'est samedi et vendredi, à nouveau, une violence, un meurtre, un assassinat, un meurtre avec préméditation d'un personnage radicalisé, pas radicalisé, cinglé, pas cinglé, qu'est-ce que c'est être fou? Écoutez d'abord le commentaire du secrétaire d'État à la Sécurité, M. Nunez.
Je voudrais saluer la réactivité des effectifs d'une BAC de la circonscription du Kremlin-Bicêtre, qui est compétente sur ce territoire, qui est intervenue très rapidement et qui a permis de neutraliser l'assaillant immédiatement, donc empêchant la poursuite sans doute d'un périple meurtrier.
Donc il y a cette question, est-ce qu'il faut reléguer ça aux faits divers et y attacher une importance secondaire parce que le meurtrier, il est prouvé qu'il a eu des troubles, qu'il a été soigné pour troubles psychiatriques graves? Est-ce que non, ça relève quand même de la catégorie générale des actes de terrorisme, parce que s'en prendre à quelqu'un, tuer, vouloir en tuer d'autres de façon anonyme comme ça, quel qu'il soit, et en se revendiquant de l'islam, c'est bien de la même catégorie, qu'on soit légèrement dérangé, seulement fanatisé ou schizophrène avéré, Sonia Mabrouk.
C'est un pléonasme.
Catherine, qu'est-ce qui est un pléonasme?
Eh ben, d'être radicalisé et fou, c'est...
Oui, enfin, oui et non, c'est-à-dire oui, mais d'un autre côté, il y a des catégories psychiatriques qui font que certains en relèvent et d'autres pas.
Moi, je crois que la prudence qui doit être de mise quant aux motivations de ces individus, de ces assaillants, ne doit pas conduire à une anesthésie du débat et des questions qu'on doit se poser. Et moi, c'est ce qui m'inquiète au-delà de l'attaque de Villejuif, c'est que nous avons presque un réflexe pavlovien de dire à chaque fois maintenant qu'il s'est un déséquilibré. Alors oui, tous les terroristes sont des déséquilibrés, il faut le savoir quand même. Il n'y a pas un terroriste qui est stable psychologiquement. Et il faut rappeler qu'il y a quelque temps, eh bien, l'organisation terroriste Daesh avait poussé tous ceux qui le peuvent à prendre ce qu'ils ont sous la main, c'est-à-dire un couteau, un objet, quelque chose pour finalement passer à l'acte et provoquer un acte terroriste, c'est-à-dire terroriser. Donc tout ce débat sémantique que nous avons, je crois qu'il passe au-dessus véritablement des gens, de l'opinion publique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette prudence que nous avons, qui est journalistique et politique, elle est en train de conduire à une forme d'anesthésie aussi de notre part, et que les gens qui nous écoutent sont beaucoup plus conscients de la menace parce qu'ils la subissent, parce que comme ils ne sont pas protégés, comme les ministres, ils ne sont pas protégés, comme certaines personnalités, c'est eux. Nous sommes d'ailleurs tous dans la rue, les citoyens, et je pense que nous ne tenons pas compte de ces différences sémantiques.
Non, ce qui est terrible, c'est que tout individu a chez lui des armes létales, un couteau. Et lorsqu'il y a eu l'assassinat des policiers à la préfecture de police, le tueur, fanatisé depuis peu, enfin radicalisé et un peu dérangé, avait été chez le droguiste du coin acheter deux couteaux. C'est-à-dire que le mal qu'on peut faire avec une arme que vous utilisez tous les jours, Et voilà, et ça arrive comme ça. C'est ça qui fait très peur parce que c'est pas prévisible. Voilà, ça peut arriver et ça arrivera.
Oui, vous avez raison. C'est ce qui rend très difficile parce que d'un côté, il est légitime de s'adresser au pouvoir public et de leur dire pas seulement très bien, bravo à la BAC d'être intervenu rapidement, mais pourquoi est-ce que quelqu'un dont on sait qu'il est, il a des troubles psychiatriques très très graves, mais d'un autre côté, qui s'est converti à l'islam et que pour des délits autres, ces deux faits ont été portés à la connaissance des autorités, pourquoi est-ce qu'il n'est pas l'objet d'une surveillance? Mais comment est-ce qu'on peut surveiller de quelle manière la plupart des gens atteints de troubles psychiatriques? C'est inconcevable. Mais est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes de surveillance néanmoins défaillants? Vous voyez, toutes ces questions sont posées et je pense qu'il est légitime de les poser.
Légitime de les poser, Olivier, mais pardonnez-moi, cessons la dichotomie factice entre un fou, un malade mental, cette psychologisation qu'on est en train de faire d'ailleurs, qui est permanente dans notre débat, et puis le passage à l'acte. Un acte terroriste, c'est un acte qui terrorise. C'est ce qui s'est passé à Villejuif, point.
Nous vous avons entendu, Sonia.
C'est important.
Nous vous avons entendu. Allez, on va terminer sur une note plus gaie, enfin plus gaie pour certains qui trouvent ça à tout le moins une aventure qui a des aspects presque comiques. Ou alors, au contraire, une preuve de plus du pouvoir de l'oligarchie. Vous voyez de qui je veux parler, j'imagine, après la dernière pause.
La journaliste Sonia Mabrouk, qui a sorti il y a peu d'où ce France, où est passé ton bon sens aux éditions Plon, et qu'on retrouve normalement la semaine à partir de 8h dans la matinale de Mathieu Béliard. Et votre invité, ce matin, ce samedi, Olivier Duhamel et Catherine Ney dans Mediapolis.
D'où ce France, où est passé ton bon sens? Rue de Japon, où est passé ton prisonnier? Écoutez tout de suite les commentaires du complot quasiment.
On ne peut pas faire le parallèle avec James Bond. Non, Carlos Ghosn, il est là pour sauver ses propres intérêts. Qui donc l'a aidé? Quelle est la connivence oligarchique des grands de ce système de la finance capitaliste mondiale qui permet de lui faire, de le faire évader? Voilà.
Elle est quand même magnifique, celle-là. Donc, Daniel Simonet, élu du 20e arrondissement et tête de liste à France Insoumise, à la mairie de Paris, sur LCI, avant-hier. Quelle est la connivence, et d'un, oligarchique, et de deux, des grands, et de trois, de ce système, et de quatre, de la finance, et de cinq, capitaliste, et de six, mondial, et de sept. Tout y est, là. Tout y est. Ça vous inspire quoi, Catherine?
Ce que dit Madame... Rien. Non, rien. Ce que je trouve, c'est que la décision qu'a prise Carlos Ghosn, qui est incroyablement risquée, parce que s'il s'était fait prendre, alors là, vous voyez, son procès aurait eu lieu dans 15 ans. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a pris cette décision parce qu'il était maintenant convaincu qu'il n'aurait pas un procès équitable et qu'il était évident qu'on le martyrisait depuis des mois. Et d'ailleurs, il faut lire la communication qu'avait faite en juillet son avocat, Maître Françoise Imré, devant le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève, et qui récapitulait tout ce qu'on lui faisait subir depuis des mois. Donc c'est quelque chose qui est, mais je veux dire, c'est une torture. C'est-à-dire que là, pas le droit d'écrire, pas le droit de se regarder dans la glace, pas de chauffage, se laver une fois par semaine, pas sortir de... Et surtout, pas voir sa femme. Mais au nom de quoi? Et être présenté comme un coupable sans pouvoir se défendre. Non, mais il n'y a pas un pays, vous voyez, ça fait peur. Ça, c'est le système japonais. D'ailleurs, qui condamne, les inculpés sont condamnés, et lourds, à 99,1940... Des cas. Et donc, on se demande que font les 06 qui restent. Et bien, ils sont morts entre-temps, souvent. Voilà. Donc, je vais vous dire, c'est ça la justice japonaise. Et ça qui fait très peur. Et moi, je trouve que, bon, il a pris un risque, mais il devait partir. C'était pas supportable.
Beaucoup d'éditeurs aimeraient savoir si la princesse Sonia partage l'analyse de la reine Catherine.
Ah, mais toujours, de la reine Catherine. Non, mais là où Catherine a raison, c'est que c'est un présumé innocent quand même, et qu'il ne l'était pas au Japon, c'était un présumé coupable. Alors quand on entend certaines réactions comme celles que vous avez passées, Olivier, pour certaines personnes, un patron est forcément coupable parce qu'il est patron. Donc on va mettre de côté cela. On ne parle pas non plus d'un James Bond, parce que c'est vrai que depuis quelques jours, il y a une forme de fascination par rapport à ce personnage, véritable héros pour certains, en tous les cas peut-être à la fois, on le voit entre Midnight Express et le Comte de Monte Cristo. Moi je pense que ce n'est ni Carlos Bond, ni James Ghosn, non. Je pense que c'est un justiciable. On est loin du patron là, je pense que c'est une tentative d'évasion pour sauver sa peau, tout simplement.
Oui, mais il n'y a, oui, a pas que... Attendez, on a quand même toujours eu aussi une part de fascination pour l'évasion dans ce pays. D'un côté, on est pour le respect des lois, comme il se doit et tout, et puis il y a une petite partie de nous-mêmes, et il n'y a pas que les riches qui arrivent à s'évader. Je ne me souviens plus quel était le gangster, mais j'ai le souvenir de cette évasion spectaculaire par un hélicoptère en plein milieu de la cour de prison, et les gens étaient partagés entre le malfrat qui se retrouvait en libre circulation, et quand même, chapeau bas, avoir réussi le coup de faire venir un hélico. Et là, il ne s'agissait pas de la connivence oligarchique des grands de ce système de la finance capitaliste mondiale.
Non, mais là, encore plus, on a assisté quand même à un film auparavant assez incroyable. On a quand même l'un des plus grands patrons, un patron star qui est vénéré. On assiste à cela, on assiste à la déchéance, on assiste à la mise au banc par le monde entier. Et puis là, à l'évasion, c'est qu'il y a une fascination et puis j'ajouterais un devoir de vérité. On a envie de savoir, au-delà de sa culpabilité ou pas, ce qui s'est passé aussi. Pourquoi la France n'a pas réagit, et c'est le cas, pourquoi il n'y a pas eu davantage d'action, de réaction, alors que l'un de ses plus grands patrons était pris dans un étau judiciaire. Et je ne dis pas cela par rapport à ses intérêts personnels, je dis cela par rapport à nos intérêts français. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre ces deux groupes? Qu'est-ce qu'il s'est passé en amont pour que tout cela arrive? Il n'y a pas que, j'allais dire, la culpabilité ou pas de Carlos Ghosn, il y a aussi ce qui s'est passé entre ces deux pays. Je pense que nous avons le droit de savoir.
Oui, moi j'étais très étonnée que les grands patrons soient aussi muets sur le cas d'un homme qui était respecté, admiré, craint, enfin... Il avait sûrement un caractère très autocratique et il n'était pas aimé. Mais là, quand on parle de ses dépenses, mais qui, dans son conseil d'administration à Renault, disait non quand il demandait quelque chose? Tout le monde était vraiment à plat ventre. Et moi, je ne sais pas s'il a fraudé. On ne sait rien. Bon, alors, le gouvernement, c'est très difficile. Emmanuel Macron a parlé 3 fois au téléphone au Premier ministre Abe. 2 fois publiquement quand il est venu au Japon. Mais l'affaire... L'affaire Ghosn a commencé, il a été incarcéré au moment où commençaient les Gilets jaunes. Donc, pour un président, défendre un patron riche et tout ça, c'était absolument pas possible. Publiquement, il
oui,
pouvait rien dire.
Et d'ailleurs, c'est pas possible non plus, je vais vous dire, la musique et la chanson qu'on a choisie pour les amis de la France Insoumise. Ah, sauf si ça avait un petit peu d'humour et que donc, ils acceptent de penser que ça nous a évoqué des souvenirs que cette musique peut appeler. Ah, certains, la grande évasion.
Ah, quelle culture!
C'était la deuxième collaboration entre Elmer Bernstein et John Sturge, après la composition de la musique du film Les Sept Mercenaires. Carlos Ghosn fera-t-il comme Steve McQueen une virée au Liban et retour au mitard? Eh bien, autre musique, une chanson cette fois, Beyrouth, Enrico Macias, 1963.
Beyrouth, ton horizon m'appelle et me sourit. Beyrouth, ton charme m'ensorcelle, ta beauté me séduit. C'est l'Éden de tous les temps qui m'enchante et qui m'attend. C'est la vieille féerie du Liban. Beyrouth, ton chant plein de douceur s'étire à l'infini. Beyrouth, et monte dans mon cœur en verte symphonie. C'est la chanson du vieux temps que répètent les amants. C'est la lente mélodie du Liban. Beyrouth, soleil riant au ciel, au refrain mystérieux. Beyrouth, fleuve de lait de miel qui nous descend des cieux. C'est Vénus de tous les temps que célèbrent les amants dans la montagne fleurie du Liban. Beyrouth, je chante à tes étoiles quand tout silencieux.
Beyrouth, Enrico Macias.
C'est bon baiser du Liban, c'est plus bon baiser de Russie, là.
Et faites écouter cette émission en podcast par vos amis sur europe1.fr. Merci à Jean-Luc Arblat qui a réalisé et qui nous a retrouvés, Beyrouth. Merci à Capucine Patouillet. À vous, très chère Justine, et bien sûr à notre invitée Sonia Mabrouk. Et puis, bonne année à tous et bonne année à l'ami Mariotte.
Oui, parce qu'on va encore bien manger en plus à la table des bons vivants avec la galette des rois. Bonjour et bonne année Laurent.
Bonne année Catherine et Olivier, bonne année Justine. Pas de trêve pour les braves, après les fêtes, vous prendrez bien un petit peu de galette, hein. Feuilletage, frangipane, fourrage, on va tout vous dire. Et nous partagerons un plat de copains avec notre invité, l'écrivain bon vivant Yann Kefelec. Voilà, vous savez tout, et à tout de suite.
À tout de suite Laurent.